Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 3 juillet 2020. Dormandia à la présentation, voici les titres. Indignation au Mali après un nouveau massacre de civils ayant fait une trentaine de morts dans le centre du pays. Au Cameroun, le syndicat national des journalistes dénonce la non-restitution du corps de Samuel Wazizi, mort en détention en 2019. La justice française confirme le non-lieu sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana en avril 1994. Les États-Unis célèbrent demain 4 juillet leur indépendance dans un contexte de restrictions liées au Covid-19. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et le sport, mais tout d'abord le journal. Au Mali, c'est la consternation après un nouveau massacre, celui de plus d'une trentaine de civils. Ces tueries sont intervenues lors d'une attaque simultanée de 4 villages d'Ogon dans le cercle de Bankas, région de Mopti. Les rescapés ont procédé à l'enterrement des victimes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. De Bamako, Kassim Traoré.
Tout a commencé aux environs de 15h, avec des mouvements de motos tricycles. Puis il y a eu l'arrivée des hommes armés non identifiés, habillés selon les populations en tenue militaire. Ils étaient à bord de 8 véhicules pick-up et plusieurs motos. Les assaillants ont attaqué simultanément 4 villages d'Ogon. Il s'agit de Gwari, Jimbo, Pagadupo, Djalakan. L'attaque a duré de 15h à 21h. Les assaillants lourdement armés ont fait irruption dans ces villages qui ne sont distants que de 2 à 3 km. Le groupe d'autodéfense qui avait pour habitude de porter main forte en cas d'attaque ont été débordés par le nombre important de terroristes. Successivement, les villages ont été l'un après l'autre attaqués, détruits, avec des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. Nous déplorons des pertes matérielles importantes. Au moins 30 morts, dont des femmes et des enfants, des vieillards et de nombreux disparus, nous indique Youssouf Tshisekedi, notable de Gwari. Avant de conclure que tous ont été enterrés dans la matinée par la population, dans la même zone, une source administrative locale confirme la mort d'au moins une trentaine de personnes tuées par barbarie. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, au moins 4 personnes ont été blessées hier soir dans l'explosion d'une bombe artisanale dans un quartier anglophone de la capitale Yaoundé. C'est ce qu'ont indiqué une source policière et des témoins. Les photos de l'explosion, dont l'authenticité a été confirmée par des témoins, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Les forces de sécurité ont bouclé le rond-point d'Amassé ce vendredi matin. Toujours au Cameroun, le syndicat national des journalistes a dénoncé la confiscation du corps du journaliste Samuel Wazizi, mort en détention en août 2019 et dont la dépouille n'a toujours pas été restituée à la famille. Les précisions de John Lindon.
Un mois après l'annonce du décès de Samuel Wazizi par l'armée, la famille du journaliste camerounais n'a toujours pas récupéré son corps. Dans une déclaration rendue publique lors d'une conférence de presse à Douala, le syndicat national des journalistes du Cameroun accuse les autorités de garder le corps pour masquer les sévices corporels que le journaliste a subis durant sa détention au secret. Jusqu'en milieu de journée ce vendredi, ni l'armée ni le ministère de la Communication n'avaient réagi à ces accusations. Mais une enquête exigée par le président camerounais est en cours. Arrêté le 2 août 2019 à Boya, dans la région anglophone du Sud-Ouest, Samuel Wazizi est mort en détention un peu plus de 2 semaines après son arrestation, le 19 août 2019, selon les autorités. Mais ce décès, dû à la torture subie par le journaliste selon son syndicat, n'a été annoncé que début juin 2020, d'abord par la presse, puis par l'armée, qui a évoqué une mort de suite d'une septicémie sévère. L'armée avait accusé le journaliste d'avoir œuvré comme logisticien de divers groupes terroristes dans les régions anglophones du pays, déchirées par un conflit séparatiste. Elle avait aussi reproché à la famille de n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer la dépouille.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a entériné le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale, suscitant la colère des ONG pro-démocratie, des églises catholiques et protestantes. Il s'agit de l'actuel secrétaire exécutif de la CENI, Ronsard Malonda, qui doit diriger la CENI en charge de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. Deux des principales confessions religieuses, la conférence épiscopale et l'église du Christ du Congo, s'opposent publiquement à ce choix. Ces deux églises, qui représentent 80% de la population congolaise, ont dit non à la nomination d'un personnage qui a déjà fait ses preuves dans les fraudes électorales, a déclaré l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. Nous y reviendrons en partie magazine. La Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui en non-lieu dans l'enquête française sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana en avril 1994. 9 membres ou anciens membres de l'entourage du président Paul Kagame étaient poursuivis dans cette affaire. Éric Manirakiza.
Les enquêteurs français ont longtemps privilégié la responsabilité des Robert Tutsi menée par Paul Kagame, devenu président du pays en 2000. Avant de s'orienter sans davantage aboutir vers une implication d'extrémistes et Hutus, soucieux de se débarrasser d'un président trop modéré à leurs yeux. Cet attentat est considéré comme le déclencheur du génocide qui fit, selon l'ONU, plus de 800 000 morts au cours des 3 mois suivants, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés. Le 6 avril 1994, l'avion transportant Juvenal Habyarimana, un Hutu, et le président burundais Cyprien Ntaryamira avait été abattu durant sa phase d'atterrissage vers Kigali par au moins un missile. Ce dossier a été une parodie de justice, une véritable mascarade qui n'aurait jamais dû voir le jour, a réagi sur son compte Twitter le ministre rwandais de la Justice, Johnston Busingye. Les avocats des familles des victimes de cet attentat ont immédiatement annoncé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu. Maître Philippe Meilac, l'avocat de la veuve Agathe Habyarimana, a dénoncé une chape de plomb et une connotation politique omniprésente dans ce dossier. De son côté, la défense estime que ceux qui ont voulu occulter la vérité ont déjà une petite victoire, celle d'avoir fait durer ces accusations toutes ces années. Maître Léon Lef Forrester déplore un pourvoi en cassation qui constitue, selon lui, une nouvelle manœuvre dilatoire des parties civiles.
Les restes de 24 insurgés algériens tués au début de la colonisation française et remis par la France sont arrivés ce vendredi à Alger. Un avion militaire transportant les restes mortuaires, notamment des crânes, a atterri à l'aéroport international d'Alger peu après 12 heures GMT. Les cercueils ont été accueillis par le président algérien Abdelmajid Tebboune avec les honneurs militaires. Leur restitution par la France est un signe fort d'un dégel dans les relations entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a indiqué ce vendredi que les violences ayant fait une centaine de morts après l'assassinat d'un chanteur de l'ethnie Oromo sont le résultat d'une tentative de déstabilisation du pays. Il a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec d'autres officiels, mais il n'a pas identifié ceux qu'il pense être derrière cette tentative de déstabilisation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump se rend ce vendredi au Mont Rushmore pour une soirée de feux d'artifice à la veille de la fête nationale de l'indépendance. Il va s'exprimer sous le regard de ses lointains prédécesseurs, les présidents Lincoln, Roosevelt, Jefferson et Washington, dont les têtes ont été taillées dans le granit du mémorial. Nathalie Barch.
7500 personnes sont attendues pour l'événement. À 4 mois de l'élection présidentielle, Donald Trump peut s'attendre à un accueil chaleureux dans cet État qu'il a remporté en 2016 avec plus de 60% des voix. La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré sur Fox News que ceux qui sont inquiets à cause du coronavirus peuvent rester chez eux et que des masques gratuits seront distribués à ceux qui veulent être de la partie, mais il n'y aura pas de distanciation sociale, a-t-elle précisé, alors que des records de contamination sont battus quotidiennement aux États-Unis. Le dernier président en exercice qui s'est rendu au Mont Rushmore était George Bush, fils, en 2002. Donald Trump évoque depuis longtemps sa fascination pour ce site sculpté de 1927 à 1941 dans la chaîne montagneuse des Black Hills. En 2017, il avait même évoqué en plaisantant la possibilité que son visage y soit ajouté un jour.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Etia Badou.
Selon le rapport sur la politique monétaire dans l'UMOA datant de mars 2020, la consommation finale dans la sous-région s'est accrue de 5,5% au quatrième trimestre 2019. Ainsi, ajoute la BCEAO, la demande intérieure contribuerait à hauteur de 6,7 points de pourcentage à la hausse du PIB au quatrième trimestre 2019. RDC, Congo, Angola, XSML visent 85 millions de dollars pour les PME spécialisées sur le segment des TPE et PME en Afrique centrale. Le capital investisseur néerlandais clôturera fin 2020 sa troisième levée de fonds. 53 millions sont déjà engagés, assurent les dirigeants de la société de capital risque. Le cours du cuivre a connu une hausse de 21% au deuxième trimestre 2020, portée par l'amélioration de la demande chinoise. La tendance devrait se poursuivre avec les risques de baisse de production en Amérique du Sud, ouvrant notamment la voie à d'autres producteurs comme la RDC et la Zambie. Le cuivre semble se remettre de la crise sanitaire actuelle. Le métal rouge a fait un bond de 21% au deuxième trimestre de l'année, dépassant même 6 000 $ la tonne la semaine dernière, une première depuis le début de la pandémie de Covid-19.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Direction la République démocratique du Congo pour parler de la nouvelle présidente. Le LAS Vita Club, le club quinois, a élu Bestine Kazadi à la tête de V Club en remplacement du général Gabriel Amissi Tango, qui a dirigé le club quinois pendant 12 ans avant de se retirer. Qui est Bestine Kazadi? Première dame a dirigé la formation congolaise depuis sa création en 1935. Notre consultant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba Yamba, nous l'a décrit.
Unique femme en course pour la succession de Gabriel Amissi Kumbadi Tangofort à la coordination de la Zita Club, Bestine Kazadi a surclassé tous ses concurrents avec à l'arrivée 38 voix sur les 71 votants. Ce qui fait de la fille de Kazadi Chichichi de son vivant président du Conseil suprême de la Zita Club, première femme en RDC à occuper un poste aussi important dans un club de football. Présidente de coordination pour les 4 prochaines années au sein de la Vita Club, Bestine Kazadi est loin d'être novice au sein de cette formation de Kinshasa pour y avoir été l'œil de son défunt père au soir de sa vie. Licenciée en droit et avocate inscrite au barreau de Kinshasa, Bestine est conseillère en matière de coopération et intégration régionale de l'actuel chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Son élection à la tête de la Vita Club la place encore un peu plus sous les projecteurs. Elle qui a toujours été discrète, mais efficace. Au-delà des défis qui l'attendent, notamment un titre continental pour les Dauphins Noirs de Kinshasa, l'assurance santé, la survie et la sécurité sociale des joueurs est l'une de ses priorités, s'appuyant sur son expérience à la mutuelle de santé MNK mise en place par son défunt père en 2012. Bestine Kazadi est la coordination des Vita Club pour les avertis. L'histoire du général Amissi Kumbadi Tangofort est loin d'être fini.
C'était Valdo Simon Yamba Yamba, notre consultant en République démocratique du Congo. Ici aux États-Unis, avant la reprise de la saison du NBA, 25 joueurs ont été testés positifs au Covid-19 depuis le début des tests la semaine dernière, selon la NBA et la National Basketball Players Association. Ces 25 tests positifs viennent de 351 tests de joueurs. La NBA prévoit de reprendre le 30 juillet avec 22 équipes qui disputeront des matchs sans spectateurs dans un environnement protégé à Disney World en Floride. Les équipes doivent se rendre à Orlando de mardi à jeudi prochain pour y organiser des camps d'entraînement et des matchs de préparation du 9 au 29 juillet. Les matchs de saison régulière, 8 pour chaque équipe, commenceront le 30 juillet avec le derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers. Les playoffs devraient commencer le 17 août et la finale se disputer à partir du 30 septembre.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Retour sur les violences dans le centre du Mali qui ont fait hier une trentaine de morts suite à l'attaque de quatre villages Dogon par des individus armés. Les militaires maliens sont arrivés sur place, mais les assaillants étaient déjà partis. Bagassi Koura a joint à Bamako le président de l'association Dogon Vision et porte-parole du collectif des jeunes Dogon, Adama Diongkon.
Ce mercredi 1er juillet 2020, en fait, dans les environs de 14h, dans le village de Gouari, plusieurs hommes armés à bord de quatre véhicules pick-up et à bord aussi de plusieurs motos sont venus à vive allure pour attaquer successivement quatre villages dans le cercle de Bankas. Bon, l'attaque a été très violente parce qu'ils ont trouvé sur place dans les champs d'agriculture les gens qui s'aimaient. Et puisqu'actuellement, à cause de l'insécurité, les gens se divisent en deux groupes. Certains sont en train de cultiver, d'autres sont en train de les surveiller. Que ce soit les travailleurs ou les surveillants, tout le monde a été attaqué au même moment. Et voilà, dans le premier village, qui est Gouari, il y a eu 16 morts. Et l'attaque a continué. Ils sont allés dans le village de Kimto. Là-bas aussi, il y a eu 14 morts. Après, ils sont allés dans le village de Pangadoulou, où il y a eu 2 morts. Et après, ils se sont rendus à Dialakanda. Il y a eu un mort. Donc au total, nous dénombrons 32 morts et 4 disparus.
Et est-ce que l'armée a pu intervenir à temps?
L'armée, selon mes informations, a été alertée dans les environs de 15h, mais elle est arrivée sur les lieux 3h plus tard. Donc ça prouvait que les assaillants avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient et ils avaient disparu dans la nature. Donc l'armée est arrivée et l'armée a fait le constat et elle est repartie. Donc, ce matin, nous avons appris que l'armée voulait repartir encore. Je ne sais pas si c'est pour une opération de ratissage, mais l'armée elle-même a été cette fois-ci attaquée par les mêmes personnes.
Et comment est la situation ce vendredi dans la région? Est-ce que le calme est revenu?
Le calme est relatif actuellement parce que la population quand même est très dispersé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se déplacer. Il y a à peu près 2000 personnes qui sont en train de se déplacer pour aller vers d'autres villages plus tendus. La population est quand même très en colère. Elle est apeurée et ne sait plus quoi faire parce que dans la zone, il n'y a pas d'autorité de l'État, donc personne ne les sécurise. Et avec un coup comme ça, psychologique, tout le monde est vraiment éviter quoi en fait. Tout ce que la population attend, c'est de l'État de pouvoir venir avec une armée forte et puis laisser couper.
Est-ce qu'on a une idée des assaillants?
Dans le village de Gouari, quand vous allez, tous les magasins, les magasins de nuit, les magasins de boutiques ont été pillés. Et ça, nous pensons que ce n'est pas des djihadistes, mais ce sont les jeunes de la zone qui sont organisés en bandits de grands chemins armés qui font ça. Tout simplement parce que l'État aussi n'est pas, l'armée n'est pas là.
C'était Adama Diongkon, responsable du collectif des jeunes Dogon.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Au Niger, 39 femmes et enfants enlevés depuis 3 ans dans le village de Ngalewa, dans le sud-ouest du pays, par Boko Haram, sont toujours en captivité. Pour se souvenir d'eux et interpeller le gouvernement, des activistes ont organisé une rencontre à Niamey. C'est un reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Depuis 3 ans que ces 39 femmes et enfants ont été enlevés, toutes les initiatives citoyennes de mobilisation en faveur de leur libération n'ont pas porté de fruits.
On n'a pas fait assez de bruit. Nous avons commencé, nous nous sommes tus. Il fallait continuer et l'État se devait de prendre la relève. La diplomatie nigérienne se devait de se déployer pour que, tout comme Chibok, que les femmes de Ngalewa ne soient pas oubliées. Et je vais appeler, pas seulement les associations féminines, toute la société civile à se remobiliser, à faire chorus pour que l'État reprenne. Si l'État du Niger a pu intervenir en son temps pour faire libérer des otages, je pense que l'État peut réussir à faire libérer les femmes et les enfants de Ngalewa.
La société civile, les citoyens ne peuvent pas jouer un rôle direct, ne peuvent pas œuvrer pour la libération de ces filles et ne peuvent que mettre la pression pour que l'État agisse. Parce que si aujourd'hui il y a des initiatives de la communauté ou des groupes, quand vous allez les entreprendre, soyez sûr que vous allez être arrêté pour intelligence avec l'ennemi. C'est du ressort de l'État, c'est à lui de le faire. Les autres entités ne peuvent que mettre la pression, faire un plaidoyer pour que l'État prenne ses responsabilités.
Les pouvoirs publics ont donc été beaucoup interpellés au cours de cette rencontre. Leur inaction et même leur attentisme ont permis aux ravisseurs, selon les participants, de poursuivre ces actions d'enlèvement.
Aujourd'hui, ce phénomène s'est généralisé. Et le cas d'Ngalewa a dû inciter les gens de Boko Haram à défier l'État et la communauté, à continuer des enlèvements nocturnes. Je ne vous apprends rien, hier nuit, justement, à 18 km de Difa, ils sont rentrés dans une ville, ils ont tué 5 personnes et blessé 2 autres. Avant-hier, à 4 km de Difa, ils sont venus enlever 5 autres personnes. Donc c'est un phénomène quotidien. Cette fois-ci, ce n'est pas des femmes, mais c'est aussi des hommes.
Les organisateurs sont sortis satisfaits de cette activité et n'espèrent pas la rééditer.
Nous souhaitons qu'au sortir de cette activité, nous puissions trouver la libération de nos innocents femmes et enfants enlevés de Ngalewa. La campagne va continuer sur les réseaux sociaux. On va inonder les réseaux sociaux avec des hashtags « Je suis Ngalewa ». Voilà, merci encore une fois.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale dominée par le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila a entériné hier soir la désignation par quelques leaders religieux de Ronsard Malonda pour diriger la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ce choix provoque des remous. Les leaders religieux catholiques, les protestants et les kimbanguistes le contestent et menacent d'envoyer le peuple dans la rue. Le Cap pour le changement, membre de la coalition au pouvoir, s'y oppose également. Le point dans ce dossier de Eddie Isango.
La décision de la plénière est contestée même par des députés du cache du président Félix Tshisekedi. Ils demandent à la Cour constitutionnelle de ne pas les laisser prêter serment et au président Félix Tshisekedi de ne pas l'installer. Des voix s'élèvent aussi au sein de la société civile. Les comités laïcs de coordination Lucha, Filimbi et les Congos Debout appellent déjà à une marche demain samedi à l'échangeur de l'UMETE. Suivons les porte-parole du CLC, maître Hervé Diakissé.
C'est un passage en force. Nous le déplorons parce que nous avions prévenu qu'un tel passage en force ne resterait pas sans conséquences. On ne peut pas accorder la prime du chaos électoral aux personnes qui ont été à la base du désastre que nous avons connu et aux personnes qui aujourd'hui sont en train de planter les décors de la au dernier scrutin. Malheureusement, encore une fois, c'est un langage de provocation, une décision qui est un mépris total vis-à-vis du peuple souverain.
L'Assemblée nationale explique que le choix des Ronsard Malunda est plutôt celui des églises ou de la majorité dégagée dans la plateforme des confessions religieuses. Écoutons ce que dit les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Célestin Moussao Kalumbo.
Si cet enterrement est intervenu, c'est à la suite des procès verbaux dont nous avons donné lecture, procès verbaux qui nous étaient présentés, déposés par les confessions religieuses. Dans un de ces procès verbaux, toute la procédure qui a abouti à la désignation a été déclinée. Nous l'avons lu sans omettre un seul mot, avec tout ce qu'il y a eu comme chronologie, sans omettre un seul détail. Et l'Assemblée nationale a un rôle limitatif. Et je considère tout simplement comme un rôle de constat et de prise d'acte. Nous avons constaté et nous avons pris acte. Alors, l'article 12 de la loi organique qui régisse ces dispositions confère à l'Assemblée nationale un rôle limitatif qui est celui d'entérinement.
Pour la CIMOCEL, synergie des missions d'observation au Congo, une désignation concertée aurait calmé les choses. Bishop Abraham Djamba.
La proposition que nous faisons de notre part, c'est d'amener toutes les parties prenantes, les FCC, le CACH, la MOCA, pourquoi pas même les partenaires, à pouvoir se retrouver autour d'une table, réfléchir sur toutes les questions qui ont été soulevées par rapport aux fonctions de la CENI, rassurer toutes les parties prenantes et prendre des dispositions qui pourraient faire que cette institution puisse jouir de la confiance de la population.
Reste à voir quelle réponse la Cour constitutionnelle réservera à toutes les revendications.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi et sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La fête du 4 juillet, commémoration de l'indépendance des États-Unis en 1776, est célébrée chaque année en grande pompe à travers le pays. Mais cette fois, plusieurs municipalités ont renoncé aux festivités et aux feux d'artifice, appelant les populations à rester chez elles à cause de la pandémie de COVID-19. Le président Trump se rend tout de même ce soir dans le Dakota du Sud et présidera une cérémonie au Mont Rushmore. Pour plus d'explications, John Lindon a joint dans la capitale américaine l'analyste politique René Lecq.
Écoutez, le 4 juillet, c'est la commémoration de l'indépendance des États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne. C'est 1776 et donc 244 ans. Et c'était en réalité la déclaration d'indépendance a été signée le 2 juillet. Et bon, il y avait un certain nombre d'activités et d'événements jusqu'au 4. Donc c'est la date du 4 juillet qui est retenue comme date officielle. Et c'est l'indépendance des 13 premières colonies américaines. Ce sont tous ces États, les 13 États qui sont sur la côte Est. Ça va du New Hampshire au nord jusqu'au sud, jusqu'en Géorgie. Donc essentiellement les États de l'Est. Et c'est vraiment un moment important pour les États-Unis parce que c'est l'acte constitutif de l'Amérique moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Alors, sauf que cette année, cette fête se célèbre dans un contexte un peu particulier, marqué par la pandémie du COVID-19, une pandémie qui a aussi pris une tournure politique.
Oui, elle a pris une tournure politique parce que un certain nombre de partisans de Trump, que ce soit des gouverneurs, parfois même des maires, Trump lui-même et certains républicains, poussent l'idée selon laquelle, au fond, le port du masque n'est pas une obligation. C'est recommandé, mais ce n'est pas une obligation et qu'il relève de la liberté individuelle des gens de décider de le porter ou non. Ce qui fait que, bon, dans beaucoup d'événements, notamment de meetings politiques organisés par Trump, la majorité des gens, ils sont, ne portent pas de masque, souvent ne respectent pas la distanciation sociale. Alors aujourd'hui, le gouverneur du Dakota du Sud, où va se passer la cérémonie principale à laquelle Trump va assister, c'est au Mont Rushmore, a elle-même déjà annoncé officiellement que la distanciation sociale ne sera pas respectée et qu'on recommande aux participants de mettre un masque mais déjà, elle dit que la distanciation sociale ne sera pas respectée. Donc, bien entendu, du côté des démocrates, ils ne voient pas du tout les choses de la sorte. Ils considèrent que ça devait être un mandat obligatoire pour tout le monde, un, porter un masque, et deux, respecter la distanciation sociale. Donc, il y a ce conflit politique, et cela arrive, John, dans un contexte de pré-campagne électorale.
Et justement, une autre particularité de la fête cette année, elle intervient après ces nombreuses manifestations contre le racisme qu'on a vu ces derniers jours et qui pourraient avoir lieu lors de ces célébrations.
Oui, il est tout à fait possible qu'il y ait des manifestations, toujours dans le cadre du mouvement Black Lives Matter. Il est possible que certaines dimensions populaires, mais de vous à moi, John, j'ai l'impression que ça risque de ne pas y avoir une très grande mobilisation. Je ne suis même pas, pour ma part, informé de tous les différents groupes qui vont participer. Mais dans le cadre, dans la situation actuelle où le Covid se développe de manière exponentielle, j'ai l'impression qu'un réflexe de prudence va amener les manifestants à ne pas trop se déployer dans les rues des grandes villes.
C'était l'analyste politique René Lec, joint ici à Washington. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24.